Les colloques du Collège de France.
J'accueille maintenant avec grand plaisir un collègue que j'ai connu quand j'étais professeur à l'Université de Paris, tous Créteil, qui est maintenant grand professeur à l'Université de Lyon 3, ancien élève de l'ENS Ulm, donc agrégé de philosophie, qui a fait aussi un DEA de logique et une thèse à Paris-Sorbonne sur la rationalité et la théorie de la décision, avant donc d'enseigner à Créteil puis Lyon. Son domaine de spécialité, je pense que vous allez tout de suite vous rendre compte que nous allons bénéficier de ces grandes lumières, c'est la théorie de la décision, la théorie des jeux et du choix rationnel, et la philosophie de la probabilité et de l'économie. Et Michael travaille aussi beaucoup sur les questions liées à l'épistémologie sociale et les théories du choix social et de l'éthique, sur lesquelles il a publié et dirigé de nombreux travaux. Il est notamment le directeur d'ouvrages collectifs sur la philosophie des sciences à Oxford University Press et de synthèse tout à fait remarquable sur la théorie de la décision paru chez Gallimard en 2019 et aux éditions matériologiques en 2022. Donc je suis très heureuse de le retrouver à nouveau et de l'accueillir au Collège de France. Michael, c'est à vous.
Merci beaucoup, merci aux organisatrices pour cette invitation qui me fait très plaisir. Alors, avant de commencer, je voudrais juste demander votre indulgence à triple titre, et ça me servira de remarque préliminaire. Donc d'abord, il y a le même petit souci que tout à l'heure, on dirait. Peut-être qu'il faut que je fasse ça. Donc d'abord, j'ai un petit peu camouflé l'objet de mon exposé avec le titre « Rationalité et espérance », grâce à l'ambiguïté d'espérance. En fait, il va être question d'espérance au sens mathématique. Donc ça va être un objet un petit peu austère, mais vous comprenez que c'est plus vendeur qu'un titre comme « Rationalité et actuariat » ou quelque chose comme ça. Deuxième point, donc pour l'occasion, j'ai fait un exposé qui était un peu hybride entre... disons une approche historique et une approche plus systématique. Bon, je ne suis pas historien ni de la philosophie ni de l'histoire des sciences, ni historien des sciences, donc c'est tout à fait possible qu'il y ait des approximations en particulier qui seront sans doute relevées, en particulier concernant la période de Pascal. Je vous prie de m'en excuser. La troisième chose, c'est que je vais avoir un peu recours à du formalisme. Et que pour des questions, disons, de présentation, j'ai dû mélanger des formalismes un petit peu différents. Donc, s'il y a des puristes, il y a des choses qui vont, voilà, que vous n'avez pas appréciées, voilà, c'était pour des raisons didactiques et aussi pour pouvoir compacter un petit peu mon propos. Voilà. Donc, je vais parler de rationalité et plus spécifiquement de rationalité pratique. Donc je vais parler de la rationalité dans l'ordre des choix, des actions, et plus spécifiquement encore dans des contextes d'incertitude. C'est-à-dire quand l'individu qui doit décider ne sait pas exactement ce qui va se passer une fois qu'il ou elle aura pris sa décision. Et ce que je vais discuter, en fait, c'est une idée qui reste aujourd'hui l'idée centrale, en fait, du champ théorique qui s'intéresse à ça, la théorie du choix rationnel. Et c'est une idée qu'on fait remonter en général à Pascal. Cette idée, donc, c'est l'idée selon laquelle les préférences d'un individu rationnel, quand il choisit dans l'incertain, doivent se laisser guider par l'espérance, entendue au sens mathématique. Donc voilà, c'est le slogan que je vais disséquer pendant mon exposé. La première forme, donc, elle est en général attribuée à Pascal en 1654, et je me suis rendu compte, en préparant l'exposé, qu'il aura fallu attendre exactement trois siècles, en 1954, pour qu'on ait en fait l'idée dans toute sa maturité, aussi bien du point de vue de la généralité, puisqu'on va beaucoup généraliser cette idée, du point de vue de la rigueur conceptuelle, mathématique, du point de vue aussi des fondements, En 1954, on arrive à la formulation plus ou moins canonique de ce qu'on appelle la théorie de l'espérance d'utilité, qui a été formulée par un mathématicien américain qui s'appelle Leonard Savage, donc dans un ouvrage très célèbre qui s'appelle les Foundations of Statistics. Alors, pendant cette période-là, la théorie de l'espérance, son domaine d'application a été considérablement étendu. Ça, c'est un point sur lequel je reviendrai brièvement. Mais surtout, et c'est là-dessus que portera mon exposé, elle a été rendue plus permissive, y compris sur son domaine initial. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que dans la version initiale de Pascal, il y avait de nombreuses combinaisons des préférences qui étaient considérées comme irrationnelles. La théorie actuelle, elle est plus permissive. Elle autorise plus de combinaisons de préférences possibles. Et elle, pour le dire autrement, elle attribue l'irrationalité moins facilement. En particulier, elle autorise toute une variété d'attitudes par rapport au risque, là où la théorie pascalienne n'en autorisait qu'une seule, que je définirai un peu plus tard, la neutralité par rapport au risque. Et donc la question qui va être le fil directeur de mon exposé, c'est celle de savoir si ce processus de libéralisation de la théorie de Pascal, il a atteint son terme, ou si la théorie dominante actuellement, la théorie de l'espérance d'utilité, est encore trop restrictive, auquel cas il faudrait envisager de la rendre plus permissive encore. Voilà. Donc ça, c'est la question que je vais aborder, et ça va me permettre de faire un parcours en partie historique. Je vais commencer par rappeler... La théorie initiale de Pascal, les critiques dont elle a fait l'objet, la formulation contemporaine, les difficultés qu'elle rencontre et les raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a une petite communauté composée à moitié de philosophes, à moitié de mathématiciens qui discutent à certains moments avec beaucoup de vivacité de la question de savoir si effectivement les préférences doivent s'aligner sur l'espérance. Voilà. Alors, cet exposé, c'est une sorte de parcours très très sélectif dans un ouvrage qu'a évoqué Claudine, qui doit paraître en fait depuis longtemps, mais a priori il devrait paraître d'ici la fin de l'année. Voilà, les épreuves sont lentes à être corrigées. Donc pourquoi on appelle la théorie de l'espérance dans sa formule initiale la théorie de pascalienne ? Parce qu'en général, on l'a fait remonter à un échange épistolaire entre Pascal et Fermat à propos d'un problème qui avait été soulevé, formulé par le chevalier de Méret, qui doit être familier à tous les pascaliens de l'Assemblée. Donc on joue au jeu suivant, un jeu à deux joueurs. Chaque joueur met dans un pot la même mise, un certain nombre de pistoles. On va considérer une pièce équitable. À chaque joueur, on fait correspondre un des deux côtés de la pièce, donc il y aura un joueur pile, un joueur face. On lance cette pièce à répétition. On décide à l'avance du nombre de manches gagnantes pour gagner la partie. Et le premier joueur pour lequel son côté de la pièce est tombé le nombre de fois attendu, remporte la mise, c'est-à-dire deuxième pistole. Donc la question, c'est, imaginons que la partie soit interrompue avant qu'elle soit terminée, selon quel principe on va partager le pot entre les deux joueurs ? Il se trouve que la réponse qu'a donnée Pascal au chevalier, et qu'on voit dans la correspondance avec Fermat, contient en germe un critère assez général de préférence et de choix dans l'incertitude, qui repose sur une notion encore implicite dans cette correspondance d'espérance mathématique. Alors je vais vous donner l'exemple que prend Pascal et le raisonnement qui se tient. Donc supposons qu'on joue en trois manches gagnantes et que chaque joueur mette 32 euros au pot et la partie est interrompue après trois manches, après que les résultats aient été face, pile, pile. Donc comment on va répartir ces 64 pistoles qu'il y a dans le pot ? Alors le raisonnement que semble avoir Pascal est le suivant. Imaginons qu'il y ait une quatrième manche. Si la pièce tombe sur pile, ça veut dire que le joueur pile a gagné, et donc il va remporter les 64 pistoles. Imaginons que, au contraire, à la quatrième manche, ce soit face qui tombe. Donc on se retrouverait à égalité, deux faces contre deux piles. Dans ce cas-là, les deux joueurs sont dans une position symétrique et ça semble plausible de considérer qu'en fait, si la partie s'arrêtait là, chaque joueur repartirait avec ses 32 euros. Ils auraient autant de chances de gagner l'un que l'autre. Donc la position du joueur pile, dans cette configuration, elle a une valeur virtuelle, on pourrait dire, de 32 pistoles. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on remonte d'un cran, sa position actuelle au joueur, après 3 manches, elle vaut au moins 32 pistoles. Et avec une chance sur deux, 64. Et avec une chance sur deux, 32 seulement. Ce qui fait que la valeur synthétique qu'on peut avoir envie d'attribuer à la position actuelle du joueur pile, c'est 32 plus 32 sur 2 est égal à 46 pistoles. 48 ? Oui, 48, merci. À ce stade, pour aboutir à la conclusion, intervient implicitement cette notion qui m'intéresse, la notion de valeur espérée ou de moyenne pondérée par les probabilités entre les deux gains possibles. Alors cette notion, on la trouve explicitée de manière plus nette 2-3 ans après dans l'ouvrage du calcul dans les jeux de hasard de Huygens, dans les premières propositions. Donc lui, à la différence de Pascal, dans sa correspondance, il part par une sorte de caractérisation de cette valeur en fonction de l'espérance qu'on appelle depuis l'espérance de gain, et à partir de ça, il va résoudre le problème des parties. Donc en particulier, la formulation la plus générale, on la trouve dans la proposition 3, qui dit que quand on a P chance d'obtenir A, donc A c'est une somme d'argent, Q chance d'obtenir B, ou B c'est une autre somme d'argent, les chances étant équivalentes, la situation a une valeur qui correspond à l'espérance de gain, donc ça équivaut à P sur P plus Q de A plus Q sur P plus Q de B. J'espère que je ne me suis pas trompé. On a une formulation plus exotérique et un tout petit peu plus générale, quelques années après, dans la logique de Port-Royal, qui est souvent, dans cet extrait, qui est souvent considéré comme la première formulation de la théorie pascalienne de l'action en incertitude, je cite, « Pour juger ce que l'on doit faire pour obtenir un bien ou pour éviter un mal, il ne faut pas seulement considérer le bien ou le mal en soi, mais aussi la probabilité qu'arrive ou n'arrive pas, et regarder géométriquement la proportion que toutes ces choses ont ensemble. » Et on peut y lire ce qu'on appelle aujourd'hui à peu près la théorie de l'espérance de gain. J'en donne une formulation standard. Imaginons que je considère les options auxquelles je fais face comme ce qu'on appelle les loteries monétaires. C'est-à-dire une loterie, c'est quelque chose qui va me donner un montant d'argent avec une certaine probabilité. Je note ça, P majuscule, Q majuscule, etc. Comment est-ce que on doit opérer si on veut être rationnel ? D'abord, une option, ça s'évalue en fonction de son espérance de gain. Donc la valeur d'une option, c'est son espérance de gain, c'est-à-dire la moyenne des gains et des pertes, s'il y en a, qu'elle occasionne, pondérée par les probabilités que chacun de ces gains et de ces pertes arrive. Deuxièmement, les préférences d'un individu rationnel doivent s'aligner sur ses espérances. Donc je dois préférer une loterie à une autre si et seulement si la première loterie a une espérance de gain qui est supérieure à la seconde. Et troisièmement, quand je dois choisir entre plusieurs loteries, je dois choisir celle qui a l'espérance de gain la plus élevée. Alors, cette théorie, elle a été vite critiquée. C'est plus la théorie dominante. J'insiste sur le fait que cette théorie, elle est doublement restreinte dans le domaine qu'elle vise. C'est-à-dire qu'elle porte sur des actions dont les conséquences sont monétaires. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, elle porte sur des situations où les probabilités avec lesquelles vont arriver ces conséquences monétaires, elles sont supposées connues par le décideur, et c'est la raison pour laquelle parfois on les appelle objectifs. Donc, Elle soulève deux questions, cette théorie en l'état. Elle soulève des questions de l'ordre de la correction, c'est-à-dire est-ce que cette théorie elle est correcte pour le domaine qu'elle vise ? Et deuxièmement, des questions d'extension, c'est-à-dire la question de savoir comment est-ce qu'on peut l'enrichir pour qu'elle puisse s'appliquer à des domaines plus vastes. Et l'histoire de la théorie de la décision, ça a consisté à s'intéresser à ces deux questions, et parfois de manière simultanée. Moi, je vais surtout m'intéresser à la première question. Est-ce que c'est une théorie correcte, ne serait-ce que pour le petit domaine pour lequel elle est faite au départ ? Et historiquement, il est apparu très vite que il était douteux que ce soit une théorie correcte. Alors, la manière dont on raconte l'histoire, souvent, c'est en faisant intervenir une expérience de pensée, le paradoxe de Saint-Pétersbourg, qui a été proposé par Nicolas Bernoulli assez peu de temps après, en 1713. C'était un scénario qui met en jeu une situation potentiellement infinie. On va jeter une pièce non biaisée de manière répétée jusqu'à ce qu'elle tombe sur face. Et le jeu s'arrête dès qu'elle tombe sur face. Donc le jeu peut s'arrêter tout de suite, ou au bout de deux coups, au bout de trois coups, etc. Et les gains que la personne qui participe à ce jeu vont être doublés à chaque fois. Donc si le jeu s'arrête au premier coup, la personne repart avec 2 euros, deuxième coup 4, et si le jeu s'arrête au énième coup, ce qui est évidemment très improbable, la personne repart avec 2 puissance n, euros ou pistoles ou ce que vous voulez. Étant donné que la pièce est non biaisée, on peut attribuer des probabilités, et donc la probabilité que ça s'arrête tout de suite, c'est 1,5. Que ça s'arrête au bout de 2 coups, 1 quart, etc. La probabilité que ça s'arrête au bout de n coups, c'est 1 sur 2 puissance n. Maintenant, si vous vous amusez à faire le calcul d'espérance de gain pour cette loterie monétaire, vous obtenez une espérance de gain qui est infinie. Et ça apparaissait, à juste titre, comme une prédiction, entre guillemets, normative extrêmement plausible, hein, parce que ça veut dire que quelqu'un qui obéit à la théorie de l'espérance de gain, il est susceptible de dépenser tout ce qu'il a pour pouvoir avoir la chance de jouer à cette loterie monétaire. Donc ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, historiquement, a joué un rôle important dans les discussions sur la validité de la théorie de l'espérance de gain. Après, c'est aussi un scénario qui est assez compliqué, qui met en jeu donc une infinité potentielle, etc. Et en réalité, il y a des difficultés encore plus élémentaires qui apparaissent dans le paradoxe de Saint-Pétersbourg, mais qui peuvent être mises en avant de manière plus simple. C'est tout simplement qu'en fait, cette théorie, la théorie de l'espérance de gain, elle implique immédiatement une propriété des préférences qu'on appelle la neutralité par rapport au risque. Ça tient dans le fait qu'un agent rationnel, d'après cette théorie, il doit être indifférent entre toute loterie monétaire, au sens où je l'ai déterminé, et son espérance de gain. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire par exemple que l'individu rationnel, il devrait être indifférent entre obtenir 5000 euros à coup sûr, tout de suite par exemple, ou bien obtenir 10 000 euros avec une chance sur 2, et rien sinon, ou bien obtenir 500 000 euros avec une chance sur 100, et rien sinon, etc., etc. Et pourquoi c'est troublant ? Parce que ça ne paraît pas contraire à la raison, en fait, de faire des différences entre ces différentes loteries. Peut-être quelqu'un accorde exactement la même valeur à ces trois loteries, mais ça ne paraît pas irrationnel, par exemple, de préférer la première loterie à la seconde, etc. Et ça, c'est incompatible avec la théorie de Pascal, en fait. Et c'est notamment incompatible avec les préférences de quelqu'un qui préférerait avoir 5000 euros à coup sûr plutôt que 10 000 euros avec une chance sur deux. La personne qui a ce genre de préférences, qui sont plutôt les préférences les plus répandues, on dit qu'elle a de l'aversion par rapport au risque. Et donc l'aversion par rapport au risque, c'est quelque chose qui est exclu par la théorie de l'espérance de gain. La théorie de l'espérance de gain, elle vous dit que quelqu'un qui a de l'aversion par rapport au risque, il est irrationnel. Et ça, c'est une conséquence qui est contre-intuitive. Donc, ces difficultés ont incité, dès le début du XVIIIe siècle, plusieurs mathématiciens à réfléchir sur une manière de transformer la théorie qui, malgré tout, avait des caractéristiques attractives. Et ce qui a été proposé à peu près en même temps, à une dizaine d'années d'écart, par Gabriel Cramer et Daniel Bernoulli, en fait, c'est une théorie qui est une simple généralisation de la théorie de l'espérance de gain, et c'est ça qu'on appelle la théorie de l'espérance d'utilité. Alors, quelle est l'idée ? L'idée, c'est qu'en fait, je vais appliquer cette idée d'espérance, cette moyenne pondérée, non plus à la grandeur objective qui m'intéresse, de l'argent, on pourrait aussi imaginer d'autres grandeurs objectives, hein, je sais pas, des biens matériels, etc. Donc, non plus les grandeurs objectives, mais quelque chose donc, qui est sur qui est marqué U de X, qu'on appelle dans le jargon, mais c'est un faux ami, l'utilité de X, qui est censée être une mesure de la valeur que l'individu accorde à ce gain. Et donc c'est cette substitution-là qui est proposée. Alors ensuite, la théorie, c'est la même. Hein. À la place de X, vous mettez des U de X, donc vous avez, au lieu d'avoir une espérance de gain, vous avez une espérance d'utilité, comme ici. Alors pourquoi c'est intéressant ? Alors, sauf erreur, Kramer et Bernoulli étaient plutôt préoccupés par le paradoxe de Saint-Pétersbourg, bah c'est intéressant dans ce cadre-là, parce que pour des fonctions d'utilité plausibles, bah en fait, ça permet de donner une réponse elle-même tout à fait plausible au paradoxe de Saint-Pétersbourg. Alors, en réalité, ce n'est pas une réponse qui est forcément complètement satisfaisante, mais encore une fois, je n'ai pas envie de trop parler du paradoxe de Saint-Pétersbourg, qui est assez atypique. Et pour ce qui est des choses qui m'intéressent un petit peu plus, sur les rapports au risque, eh ben en fait, ça ouvre la possibilité d'avoir des individus rationnels qui ne sont pas neutres par rapport au risque. Par exemple, qui ont de l'aversion au risque ou au contraire, qui aiment le risque. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et en fait, il y a une correspondance systématique. Alors, je ne sais pas si elle était tellement mise en avant à l'époque, mais en tout cas, aujourd'hui, ça figure dans tous les manuels de théorie de la décision, entre la forme de cette fonction d'utilité, hein, donc qui vous dit, qui associe à des sommes d'argent la valeur qu'a aux yeux de l'individu cette somme d'argent, entre sa forme et la manière dont l'individu réagit au risque. Si la fonction d'utilité, elle est concave, comme ça, ça implique que c'est un individu qui va plutôt éviter le risque. Il va préférer 5 000 euros à coup sûr à 10 000 euros avec une chance sur deux. Si la fonction d'utilité est linéaire, toute droite, ça veut dire qu'il est neutre par rapport au risque. En fait, c'est équivalent à l'espérance de gain. Et si, au contraire, elle est convexe, bah, c'est quelqu'un qui va avoir une disposition à prendre des risques. Voilà. Donc, on a cette élégante correspondance. Alors ça, là, j'ai présenté sous une forme vraiment rudimentaire la théorie de l'espérance d'utilité. Maintenant, ce que je vais aborder, en fait, c'est les différentes critiques dont elle a pu faire l'objet à l'époque contemporaine, disons, en rapport spécifiquement avec cette question du rapport au risque. Alors, il y a une première difficulté qui est de nature conceptuelle, et qui porte sur le lien très fort qui est établi par la théorie entre la manière dont j'accorde une valeur à l'argent ou à une autre grandeur objective et mon rapport au risque. On pourrait, alors de manière abstraite, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que la manière dont j'évalue des biens, c'est quelque chose qui devrait déterminer la propension plus ou moins grande que j'ai à prendre des risques? Ce sont des choses assez hétérogènes, en fait. En particulier, si vous avez une fonction d'utilité pour l'argent donc qui est linéaire, pourquoi est-ce que ça voudrait dire que forcément on serait neutre par rapport au risque? Ça, c'est l'implication de cette théorie de l'espérance d'utilité. On pourrait se dire, ah, mais il pourrait très bien y avoir des gens qui évaluent de manière linéaire la valeur de l'argent, mais qui aiment prendre des risques ou qui n'aiment pas prendre des risques, etc. Alors ça, c'est un problème en particulier pour la première version de cette théorie de l'espérance d'utilité, celle du XVIIIe siècle, de Kramer et Bernoulli, parce que pour eux, la fonction d'utilité, en fait, c'était une fonction d'utilité qu'on appelle parfois l'utilité dans le certain. C'est quelque chose, effectivement, comme la pure valeur qu'un individu accorde à des biens, indépendamment de toute considération de risque, d'incertitude, etc. etc. La réponse contemporaine standard, c'est qu'en fait, justement, la théorie de l'espérance d'utilité actuelle, c'est pas tout à fait la même que celle de Kramer-Bernoulli, même si ce sont les mêmes formalismes. En fait, dans la théorie contemporaine, cette fameuse fonction d'utilité, c'est quelque chose qui intègre, dès le départ, le rapport de l'individu au risque. Ça veut dire qu'en fait, cette fonction d'utilité, la U, c'est pas juste une mesure de la valeur intrinsèque que vous accordez au bien, mais c'est déjà le résultat, l'espèce d'agrégation de deux choses qui restent complètement implicites, la valeur que vous accordez au bien et la plus ou moins grande propension que vous avez à prendre des risques. C'est la raison pour laquelle il y a une erreur de catégorie du point de vue de la théorie contemporaine à vouloir, dans cette perplexité qui consiste à dire « mais ça devrait être indépendant, l'utilité et l'attitude par rapport au risque ». Non, du point de vue de l'analyse contemporaine, cette fonction d'utilité, elle est intrinsèquement liée à nos propensions à prendre des risques, et c'est tout à fait normal que du coup les deux notions soient liées. Pour marquer ce point, il y a une habitude qu'on a plutôt chez les théoriciens du choix rationnel du côté de l'économie et des mathématiques, c'est d'appeler cette fonction d'utilité « utilité von Neumann-Morgenstern », du nom donc des von Neumann et Morgenstern qui ont été les premiers à établir le paradigme contemporain de la théorie du choix rationnel dans les années 40, et qui justement ont mis au point une méthode et une présentation de la théorie de l'espérance d'utilité dans laquelle la fonction d'utilité a ce statut d'être un indicateur combiné de la valeur et de notre propension à prendre des risques. Donc ça, c'est la réponse standard qui fait encore l'objet de certaines discussions. C'est pas complètement clos, en particulier chez les philosophes spécialistes du choix en incertitude, deux exemples dans la littérature récente. Alors, c'est pas là-dessus que je vais, c'est pas sur ce problème que je veux surtout m'arrêter, mais sur un autre problème qui est apparu dans les années 50 qui est la source principale des contestations qu'il y a depuis de la théorie de l'espérance d'utilité. Donc la menace à l'espérance, elle vient directement de là. Donc il y a eu deux articles qui ont soulevé deux types de problèmes assez distincts. J'insiste sur le premier des deux, qui est dû à un économiste, Maurice Allais, dans les années 50. Alors, c'est très simple, en fait. C'est deux choix hypothétiques qui ont été proposés via des questionnaires. Et ensuite, ça a été répliqué dans la littérature psychologique. Donc, le premier choix, on demande à quelqu'un, au sujet de l'expérience, qu'est-ce qu'il préfère entre avoir 1 million d'euros à coup sûr. Donc, vous voyez, ça correspond à ça, là, l'action A1. Ou bien avoir cette seconde loterie, au sens où j'ai employé le terme tout à l'heure, qui vous donne 1 million d'euros avec 89 chances sur 100, 5 millions d'euros avec 10 chances sur 100, ou alors rien du tout avec une chance sur 100. Donc la deuxième loterie, elle introduit une probabilité de revenir avec rien du tout. Par contre, il y a une partie de votre million d'euros qui se transforme en 5 millions d'euros. Donc, comme dirait l'autre, il y a du pour, il y a du contre à opter pour la loterie numéro 2. Bon, il se trouve que la majorité des gens préfèrent la première loterie, hein, préfèrent A1. Alors c'est quelque chose que je réplique jamais dans mes cours, mais apparemment c'est quand même quelque chose de robuste, après la littérature scientifique. Il y a d'autres valeurs pour lesquelles ça marche assez bien. Second choix, complètement indépendant, hein. Pareil, deux loteries. La première, vous avez 5 millions d'euros avec 10 chances sur 100, et dans 90% des cas, vous n'avez rien. Et quatrième loterie, vous avez 1 million d'euros avec 11 chances sur 100, et dans 89% des cas, vous n'avez rien du tout. Les deux situations de choix sont complètement indépendantes, hein. On va vous demander d'émettre des préférences en toute indépendance dans le premier cas et dans le second cas. Dans ce second cas, la réponse majoritaire, c'est une préférence pour A3 plutôt que A4. Hein, alors, il y a beaucoup de spéculations sur les raisons pour lesquelles les individus ont cette préférence, mais en tout cas, elle est majoritaire. Bon. Alors, pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce qu'en fait, si on raisonne un peu sur ces choix-là, on peut se rendre compte très très vite que c'est incompatible avec l'espérance d'utilité. C'est pas possible d'avoir des préférences qui obéissent à l'espérance d'utilité et de préférer... faut que je fasse ça à la main. De préférer... A1 à A2, et puis ensuite A3 à A4. Okay. Alors ça, c'est une observation purement... c'est juste une comparaison entre notre petit modèle normatif et puis les comportements et les choix. Après, on peut en tirer différentes choses. Ce qui intéresse surtout les philosophes, c'est ce qu'on peut en tirer du point de vue de la question de la validité normative de l'espérance d'utilité. Il se trouve que donc ces préférences-là, en fait, elles violent des principes fondamentaux à partir desquels on peut dériver l'espérance d'utilité. Et en particulier, alors ça dépend des formats exacts qu'on utilise, hein, mais ça viole, selon qu'on est plutôt dans un cadre qu'on appelle von Neumann-Morgenstern, ça viole l'axiome d'indépendance, et dans un autre cadre, celui de Savelge, ça viole un axiome qui s'appelle l'axiome P2. Alors, c'est plutôt sur celui-là que je vais insister, parce qu'il est un peu plus parlant. Enfin, c'est relatif, hein, mais l'autre est plus ésotérique. L'axiome P2, il affirme en substance que les préférences entre deux actes ne dépendent pas des situations où les actes ont les mêmes conséquences. Hein, on peut appeler ça une partie commune. Imaginez, vous avez deux actions, et vous avez deux actions qui, dans certains cas de figure, aboutissent aux mêmes choses. Ce que vous dit le principe P2, c'est que si je dois comparer la valeur de ces deux actions, je ne dois pas tenir compte de ça. Okay. Ce que ça exprime, c'est ce qu'on appelle une forme de séparabilité des préférences ou des valeurs individuelles. C'est l'idée que la contribution à la valeur d'un acte des conséquences qui arrivent en un événement est séparable de la contribution des autres conséquences qui sont susceptibles d'arriver si d'autres événements arrivent. Alors pourquoi il y a un conflit avec cette idée-là ? Eh bien, c'est assez facile de voir comment ça marche quand on reformule un tout petit peu le paradoxe d'Allais. De la manière suivante, vous voyez là, en fait, imaginez, vous avez des loteries dans lesquelles il y a 100 boules qui sont. Dans chaque loterie, il y a 100 boules, et les boules sont numérotées, c'est ou bien par 1 million d'euros, 5 millions d'euros, rien du tout. Donc vous voyez, ça c'est la boule numéro 1, elle a 1 million d'euros, 0, 1 million. Blablabla. Et en fait, je reformule comme ça le choix entre A1 et A2 et entre A4 et A3. Vous voyez que mon premier choix entre A1 et A2, eh bien, les boules 2 à 90, elles ont la même conséquence pour les deux actes. Hein ? Ça me donne 1 million d'euros dans les deux cas. Et donc, ce que me dit le principe P2, le principe de séparabilité, c'est que si je veux comparer A1 et A2, eh bien, en fait, je peux faire abstraction complètement de cette colonne centrale, parce qu'il se passe la même chose. Si je dois décider lequel est meilleur entre A1 et A2, je peux mettre de côté les endroits où ça coïncide et pour me concentrer sur les endroits où ça diffère. Qu'est-ce qui se passe quand je compare A3 et A4 ? Ben en fait, on a un peu le même phénomène, c'est-à-dire que sur les boules 2 à 90, vous avez la même conséquence. En revanche, il y a une différence, c'est que cette conséquence, c'est plus 1 million d'euros, mais c'est zéro. Hein, c'est un choix qui est beaucoup moins avantageux. Mais si j'applique toujours le même principe, ça veut dire que je dois faire abstraction de cette colonne centrale, puisque ça a la même conséquence, c'est une partie commune. Mais ça veut dire que si je fais abstraction de la colonne centrale, en fait, le choix entre A1 et A2, bah, d'une certaine manière, il est exactement le même que le choix entre A4 et A3. Et que si je préfère, par exemple, A1 à A2, bah, je dois préférer A4 à A3. Puisque, encore une fois, imaginez que vous cachez la colonne centrale, vous voyez que c'est exactement les mêmes deux paires en réalité. D'où l'idée que si vous préférez A1 à A2, vous devez préférer A4 à A3 et réciproquement. Et ça, c'est exactement ce que ne font pas les individus qui répondent au paradoxe d'Allais. Ça veut dire qu'ils violent ce principe qu'on appelle P2, ce principe de séparabilité. Alors, un diagnostic possible de la situation, il me reste une dizaine de minutes, c'est ça ? Un diagnostic possible de la situation, c'est le suivant. Ce n'est pas le diagnostic majoritaire, mais il est pas mal défendu par les philosophes en particulier. Donc il y a des préférences qui ne sont pas séparables dans le sens où je l'ai dit, c'est-à-dire qu'ils violent l'axiome P2 de Savelge. Parmi elles, il y en a qui sont rationnelles, en tout cas qui semblent compatibles avec la rationalité. En particulier, les préférences comme celles dans le paradoxe de Allais, bah, c'est des préférences qui ne semblent pas pathologiques. Et si on demande aux gens, ça a été fait, on leur dit, vous êtes sûr que vous voulez vraiment préférer A1 à A2 et A3 à A4, etc. Les gens, en général, ils persévèrent dans leur préférence initiale. C'est pas comme si c'était de simples erreurs ou des fautes d'inattention, etc. On peut vouloir en inférer qu'il y a dans ces préférences-là un rapport au risque qui nous semble tout à fait rationnel, mais qui n'est pas pris en compte par la théorie de l'espérance d'utilité. Conclusion, eh ben en fait, si on veut une bonne théorie de ce que c'est que agir et préférer rationnellement dans le risque, il faut une théorie un peu nouvelle qui soit compatible avec ce genre de préférence. Et je vous ai dit, ces préférences-là, elles sont incompatibles avec des principes qui sont vraiment au cœur de l'espérance d'utilité, d'où la conclusion qu'il faut abandonner, pas forcément s'éloigner beaucoup, mais il faut abandonner l'idée que les préférences rationnelles doivent s'aligner sur le critère d'espérance. Voilà. Alors, cette ligne de raisonnement, on la trouve, alors Maurice Allais était un des premiers à la prendre, mais ce n'est pas le seul, et dernièrement, la dernière monographie qui a créé l'actualité des discussions philosophiques dans le domaine, elle est le fait d'une philosophe américaine qui s'appelle Lara Bouchak, qui s'appelle Risque et rationalité, elle a une dizaine d'années, c'est exactement en fait le diagnostic qu'elle porte sur la situation, et ce qu'elle propose en fait, c'est de réviser l'espérance d'utilité en introduisant un facteur qui va déformer l'espérance. Donc c'est pour ça qu'elle dit que c'est une théorie de l'espérance d'utilité pondérée par le risque. Et ce facteur-là, il est censé justement représenter une propension ou une absence de propension à prendre des risques qui serait irréductible à ce qui est capturé par la théorie de l'espérance d'utilité traditionnelle et de fait qui est compatible avec les préférences à la Allais. C'est-à-dire qu'on peut effectivement montrer qu'avec cette petite théorie, on est capable on peut obéir à cette théorie et avoir des préférences à la Allais. Et dans ce cas-là, ce que Bouchak fait de manière totalement explicite, c'est qu'elle défend la rationalité de préférences non séparables, c'est-à-dire qu'elle considère qu'il est tout à fait légitime d'appréhender des options, là, c'est les choses que j'ai appelées des loteries, d'une manière qui est globale et holistique. Alors que cette idée de séparabilité, en fait, ça veut dire que la manière dont on évalue une loterie, c'est une manière qui est beaucoup plus locale. Je ne vais pas rentrer sur ce point-là, mais voilà l'esprit général. Alors, ce n'est pas la première à faire ça, hein. En général, ceux qui ont investi massivement dans ce genre de programme sont plutôt à trouver du côté de l'économie et pas forcément avec les mêmes objectifs. Souvent, les objectifs qu'on recherche, c'est plutôt d'avoir une théorie descriptive du comportement plutôt qu'une théorie normative de la décision. Et il est plus rare qu'on ait des propositions de défense, comme c'est le cas avec cette philosophe, de défense normative de ce genre de théorie. Ce mouvement théorique, hein, passer de l'espérance d'utilité à une sorte de généralisation hétérodoxe, c'est quelque chose qui peut sembler naturel, en particulier quand on le replace dans l'histoire longue de la théorie du choix rationnel, ce que j'ai essayé de faire. En passant de l'espérance de gain, donc c'est la théorie de Pascal, à l'espérance d'utilité, on a rendu la théorie plus permissive et on l'a rendue compatible avec certains cas qui étaient contre-intuitifs. Je veux dire, des cas qui étaient exclus par la théorie de Pascal, mais qui nous semblaient des cas de comportement rationnel. Ben ici, le mouvement, il semble exactement analogue. C'est-à-dire que le diagnostic, c'est que la théorie de l'espérance d'utilité, elle n'est pas assez permissive, elle exclut les comportements à Allais, donc on la rend un peu plus libérale, de manière à être capable à être compatible avec ce genre de comportement. Du point de vue donc des principes qui peuvent venir justifier le critère de l'espérance, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on affaiblit des axiomes, comme l'axiome P2, là, ou comme l'axiome d'indépendance. On ne les jette pas complètement, hein. Le travail théorique montre que, en réalité, ce qu'on va valider, c'est des formes un peu plus restrictives de ces axiomes-là. Et on peut dire, bah, après tout, les axiomes de départ de Savage, de von Neumann-Morgenstern, c'était des premiers jets, pas encore dégrossis, et qu'en étudiant de manière un peu plus systématique des décisions possibles, on arrive à saisir de manière un peu plus fine les bons principes du choix rationnel. Et par ailleurs, ce genre de proposition a plutôt le bon goût de dévier l'espérance, mais d'une manière assez homéopathique. Donc on a quand même une homogénéité théorique qui est agréable pour l'esprit. Donc il y a un mouvement qui est à la fois qui semble légitime et qu'on pourrait considérer comme un progrès. Maintenant, c'est pas ça qui arrive, et ça va être le dernier point de mon exposé, et je crois que je vais être plus ou moins dans les temps. Il y a une difficulté qui fait que, en réalité, ce passage, donc, cet abandon de l'espérance d'utilité, du point de vue normatif, il n'a pas lieu, et qu'en fait, il y a plutôt une polarisation des camps concernant la question de savoir s'il faut renoncer ou pas à l'espérance d'utilité. Alors, le problème, qui apparaît quand on rejette l'espérance d'utilité. Je pense que ce n'était pas du tout un problème qui était anticipé et même pas anticipable par l'essentiel de l'histoire de la théorie du choix rationnel. Hein. C'est quelque chose qui est une sorte de découverte et qui a eu lieu dans les années 70-80. On s'est rendu compte qu'en fait, quand on s'intéressait à la manière dont les gens se comportent dans des choix qu'on appelle dynamiques, c'est des situations où en fait il va y avoir des alternances entre des moments où vous choisissez, puis des moments où il y a un événement qui va arriver, puis éventuellement vous allez à nouveau avoir la main, etc. Quand on s'intéresse à ce genre de situation, eh bien en fait, ne pas obéir à l'espérance d'utilité, ça a des conséquences qui paraissent très embêtantes. Et ça aboutit à des comportements qui peuvent sembler pathologiques. Et ça a donné naissance à un mouvement de défense de la théorie de l'espérance d'utilité, donc qui est basé sur ces situations de choix dynamiques. On appelle ça les arguments dynamiques, donc qui sont des arguments contre les préférences que j'ai appelées non séparables et en faveur de l'espérance d'utilité. Alors, je vous dis quelques mots sur ces arguments dynamiques, et puis après, je conclurai. Alors, ces situations, donc, ce sont des situations qu'on va représenter typiquement par des arbres. Ces arbres-là, ce sont des trajets possibles. Tout à gauche, vous avez un nœud qui est le nœud initial. C'est un moment souvent arbitraire. Et puis, les branches correspondent à des futurs possibles. Il y a deux types de nœuds dans cet arbre. Il y a des nœuds ronds qui correspondent à des événements, donc des choses qui arrivent, qui ne sont pas directement dans le pouvoir de l'agent. Et puis les carrés, ce sont ce qu'on appelle des nœuds de décision. C'est des endroits où l'agent choisit effectivement. Donc choisir, ça veut dire choisir une des branches. Et on va s'intéresser à la manière dont l'individu planifie son comportement dans ce genre d'arbre. Donc on va s'intéresser à un objet qu'on appelle un plan ou une stratégie. Maintenant, on peut songer à des principes de rationalité pour la conception de ces plans. Qu'est-ce qu'un individu rationnel ferait s'il doit concevoir des plans pour naviguer dans ce genre d'arbre de décision ? Alors, il y a deux principes qui sont très très forts et qui sont au centre des discussions. Il y a un premier principe qui est un principe de séparabilité dynamique qui vous dit... En fait, quand vous arrivez à un sous-arbre, donc quand vous arrivez à un nœud de décision au milieu de l'arbre, vous devez faire exactement comme vous feriez si vous commenciez la situation de décision, s'il n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé avant. Après tout, quand je décide, je suis essentiellement intéressé par le futur, donc je n'ai pas à tenir compte du passé. Si le passé fait une différence, ça veut dire que ça avait des conséquences différentes, mais ça apparaîtra, ce ne sera plus tout à fait le même arbre. Mais si vraiment je considère une situation qui est exactement la même que celle dans laquelle je me trouve, alors que moi j'ai commencé mon chemin dans l'arbre depuis déjà un certain temps, je devrais avoir le même comportement en fait. Donc ça c'est un premier principe. C'est une sorte de principe de on ne doit pas considérer le passé quand on est à un nœud de décision, à partir du moment où les choses sont représentées comme elles le sont. Et bien, dans la vraie vie, il y a plein de situations où il faut tenir compte du passé. Hein, voilà. Deuxième principe, c'est le principe de cohérence dynamique. Dans la mesure où, dans un arbre comme ça, normalement, tout est su à l'avance, toutes les possibilités sont connues à l'avance, il ne doit pas y avoir de cas où vous allez vous dire « Ah bah tiens, quand je serai au nœud de décision dans trois étapes, je vais faire ça, et quand vous y retrouvez, vous faites autre chose ». Parce que normalement, par définition, dans ce cadre très idéalisé, quand vous vous retrouvez à ce nœud de décision trois coups après, bah vous avez exactement, vous avez toutes les informations que vous avez à ce moment-là, vous les avez déjà au début, au nœud initial de l'arbre. Donc, ce qu'on exige, c'est que dans ce genre de situation où l'information est maximale, la cohérence veut que vous ne changiez pas d'avis, en fait, pendant que vous naviguez dans l'arbre. On dit qu'un décideur qui obéit à ces deux principes, alors je ne sais pas pourquoi ce mot s'est ancré, il est sophistiqué. Et en termes de raisonnement, ça correspond à un mode de raisonnement qui est à la fois, qui est très naturel et qui est enseigné dans plein d'écoles de commerce ou que sais-je. C'est ce qu'on appelle l'induction rétrograde. Ça consiste à partir des bouts des extrémités de l'arbre et à remonter en se disant « Tiens, si j'arrivais là, je ferais ça, donc au coup d'avant, puisque je ferais ça au coup d'après, je vais choisir ça, etc. etc. » Il y a donc un pendant délibératif très clair de ces principes-là. Ce qu'on oppose parfois à deux autres façons d'envisager le choix dans ce genre d'arbre. Le comportement résolu, c'est celui qui est capable de se dire à l'avance, bon, en ce nœud-là, je ferai ça. Même si une fois qu'il y est, en fait, c'est plus exactement ce qu'il a envie de faire. Mais il se sent engagé, ou il est engagé par son plan initial. Ça, c'est le comportement qui est dit résolu. Et le comportement naïf ou myope, bah, c'est celui qui décide nœud après nœud, quitte parfois, en fait, à prendre des décisions qui ne sont pas celles qu'il avait envisagées au début. En général, on considère que le décideur rationnel est c'est le décideur sophistiqué. Évidemment, il faut toujours qu'il y ait des philosophes qui ne soient pas d'accord avec, mais c'est quand même l'opinion orthodoxe. Donc ça, c'est les deux principes centraux. Maintenant, il y a un troisième principe ou une famille de principes que je ne vais pas détailler, qui sont un petit peu plus ésotériques. C'est des principes d'invariance qui vous disent, bah, si on transforme un peu l'arbre en changeant parfois l'ordre des nœuds de décision et des nœuds événements, bien pour autant que globalement les options en fait sont les mêmes, ça ne devrait pas faire de différence dans les plans que vous choisissez. Ça, c'est le troisième principe de rationalité qui est invoqué par cette littérature-là. Maintenant, le résultat qu'on obtient, eh ben, c'est qu'en fait, si vous obéissez à ces trois principes-là, forcément, vous avez des préférences séparables. C'est-à-dire que vous êtes en phase avec le cœur de la théorie de l'espérance d'utilité. Ou pour le dire autrement, si vous avez des préférences non séparables, comme certains philosophes et économistes le réclament en réaction au paradoxe d'Allais, eh bien, ça veut dire que vous devez abandonner un des principes supposés de rationalité dans ces choix dynamiques-là. Et donc, vous faites face à une sorte de dilemme. Ou bien il faut abandonner ce que j'ai appelé la séparabilité dynamique, ou bien la cohérence, ou bien ces principes d'invariance. L'interprétation qu'en donnent les défenseurs de la théorie de l'espérance d'utilité, c'est que des préférences de ce type-là, donc qui abandonnent un des trois principes, sont incohérentes, donc irrationnelles, donc il est irrationnel de violer la théorie de l'espérance d'utilité. Voilà. Et ça, c'est le grand défi. Alors, je crois que je vais des petits divertissements. Là. Je vais passer. C'est le grand défi auquel font face tous ceux qui tirent le genre de leçon que j'ai indiqué du paradoxe d'Allais, comme la Rabouchak, mais c'est un exemple parmi d'autres. C'est-à-dire tous ceux qui pensent qu'il y a une rationalité aux préférences non séparables et qu'il ne faut pas toujours s'aligner avec la théorie de l'espérance d'utilité. Voilà, donc je reviens à la question de départ, c'était est-ce que la théorie de l'espérance d'utilité est juste ce qu'il faut en termes de permissivité pendant les rapports par rapport au risque, c'est-à-dire ni trop restrictive, comme l'est la théorie pascalienne, ni trop permissive, comme le seraient peut-être ces théories des préférences non séparables. Alors, sur le fait que la théorie de l'espérance d'utilité, ou que la théorie pascalienne est trop restrictive, là il y a un consensus, je ne connais pas beaucoup de voix qui s'élèvent contre. En revanche, de l'autre côté, est-ce que la théorie de l'espérance d'utilité est trop restrictive et est-ce qu'il ne faudrait pas envisager des préférences non séparables? Parce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que là il y avait une incertitude et des controverses qui sont très fortes. Ce qui est surprenant du point de vue de l'évolution un peu des idées, c'est que la question initiale qui se pose à la suite de Pascal sur la validité de sa proposition, c'est une question qui n'a aucune dimension temporelle, en fait. C'est ce qu'on appelle, en théorie de la décision, une question qui porte sur des choix statiques. Je choisis entre des loteries. Ce qui se passe depuis quelques décennies, c'est qu'en fait, l'évolution de la controverse, l'évolution contemporaine de la controverse, ont mis cette question sous la dépendance de questions qui ont trait à ce que c'est que se comporter de manière rationnelle dans des situations de choix dynamiques, donc dans des situations où il y a une distribution dans le temps des événements qui peuvent survenir et des décisions du décideur. Voilà, je crois que j'ai épuisé mon temps. Voilà, je suis un peu triste de ne pas avoir montré les arbres, mais voilà. Merci beaucoup.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.